RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Et ensemble, nous recevons Claude Malhuret. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes sénateur de l'Allier, président du groupe Les Indépendants et membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Donc Vladimir Poutine reconduit à la tête de son pays avec 87% des suffrages, rien d'étonnant bien sûr. Il sort renforcé par cette réélection et compte ses alliés à l'extérieur de son pays, de plus en plus nombreux. Et évidemment, c'est une très mauvaise nouvelle.
C'est une nouvelle qui est attendue. Le résultat a été connu d'avance. Donc cette élection ne rime à rien, elle vise à des... Comment dire, une ligne de propagande interne et rien de nouveau. Par contre, ce qui l'accompagne, c'est un durcissement. Mm-hmm. Un durcissement qui s'est manifesté par l'assassinat de Navalny, par la répression de toutes les oppositions, et c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant aujourd'hui, si ce n'est inquiétant, en tout cas, le plus troublant, c'est... Après l'échec relatif de la contre-offensive ukrainienne, le succès dans un premier temps, puis l'échec de la deuxième phase, c'est la reprise de l'initiative par les Russes aujourd'hui et par l'armée russe aujourd'hui en Ukraine. Le vrai sujet, il est là. Sinon, en Russie, on pourrait dire il s'est rien passé. Tout le monde attend.
Je vous parlais de ses alliés extérieurs, que ce soit la Corée, la Chine.
Là non plus, je pense qu'il n'y a pas de
rien de nouveau sous le soleil. No news, comme on dit.
C'est clair. L'Alliance internationale des dictateurs s'est reformée. La Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran. Un certain nombre de pays de ce qu'on appelle le Sud global, à mon avis à tort, mais de ce qu'on appelle le Sud global. Ouais. C'est comme ça depuis le début de la guerre en Ukraine. Ils ont déclaré, c'est d'ailleurs un sujet sur lequel je me pose la question des dirigeants européens, qui n'arrêtent pas de dire on n'est pas en guerre avec la Russie. Je ne vais pas dire le contraire. Je ne vais pas proposer qu'on déclenche la guerre avec la Russie. Mais les Russes, les Chinois et les autres, a fortiori la Corée du Nord ou l'Iran, n'arrêtent pas de dire à longueur de journée « Nous sommes en guerre contre l'Occident. Nous sommes en guerre contre le système international tel qu'il est et nous voulons abattre ce système. » Donc je me dis, il ne faut peut-être pas trop répéter. Il faudrait au moins dire... expliquer aux gens qu'eux disent qu'ils sont en guerre contre nous et dire que dans ces conditions... il faut bien s'attendre à des jours difficiles et préparer l'opinion.
Alors, lors de votre discours très remarqué sur le débat et le vote au Sénat sur l'accord signé avec l'Ukraine, vous avez dit « le régime de Poutine n'est pas une démocratie illibérale, une démocrature, un pouvoir autoritaire et tous ces euphémismes mensongers, je cite, mais une mafia d'État ». Alors, que doivent faire les Européens face à une mafia d'État ?
Je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose. De la même façon qu'au moment de l'URSS, on disait que peuvent faire les Européens. Bon, il y avait Radio Free Europe, un certain nombre de choses, soutenir les dissidents lorsque c'était possible. Mais tout le monde disait que c'est la Russie qui fera elle-même la différence. Il y a tout de même quelque chose qui, à l'époque, était quand même significatif. C'est la guerre des étoiles de Reagan. C'est Reagan, même quelles que soient les critiques qu'à l'époque on lui faisait, qui, avec la guerre des étoiles, a précipité la chute de l'URSS. Bon, on ne va pas refaire la guerre des étoiles, mais soutenir, de toute évidence soutenir, et soutenir à fond, et soutenir plus qu'on ne le fait aujourd'hui, l'Ukraine, parce que la Russie montre qu'elle n'est pas... s'il n'y avait pas la menace nucléaire derrière, on aurait déjà beaucoup plus aidé l'Ukraine et je pense que Poutine aurait perdu cette guerre. Il peut toujours la perdre, mais avec les hésitations, avec les élections américaines, avec les hésitations européennes, il est possible qu'il la perde pas tant que ça. Donc, bien sûr qu'il faut... La première chose qu'on peut faire aujourd'hui, nous, notre guerre des étoiles à nous aujourd'hui, c'est soutenir l'Ukraine à fond.
Alors, Claude Malhuret, vous dites, je vais vous citer, « Je préfère le Macron qui réunit les pays démocratiques à Paris et qui dit que rien n'est exclu à celui qui dit il ne faut pas humilier Poutine », propos qu'il avait tenu, on s'en souvient, au début du conflit, lorsqu'il maintenait à l'époque le dialogue avec le président russe. Est-ce que vous pensez que la menace d'une intervention militaire française... puisse dissuader, tempérer les ardeurs de Vladimir Poutine ?
Non, je ne pense pas. Et d'ailleurs, je ne pense pas que nous sommes à la veille d'une intervention militaire française. En revanche, il faut quand même dire une chose, c'est que un certain nombre d'alliés ont réagi en disant ouais, « nous, on ne fera jamais ça ». Au moment même où le New York Times disait il y a 14 bases de la CIA en Ukraine, au moment même où les Anglais, ils l'ont dit eux-mêmes, on a déjà des gens là-bas, on ne compte pas augmenter, mais ça voulait dire on a déjà des gens là-bas. Et par conséquent, c'est pas le, on ne va pas envoyer des troupes pour se battre en Ukraine. Mais dans cette situation délicate aujourd'hui, où il y a déjà un accompagnement. On n'envoie pas des canons César, on n'envoie pas des...
Mais c'est logistique, essentiellement.
Voilà, c'est logistique, c'est des mesures de soutien. Je pense que ça, bien entendu, il ne faut pas reculer devant cela. Il ne faut pas avoir peur devant cela.
On entend beaucoup dire que Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Vous-même, d'ailleurs, vous le pensez. Vous avez cette certitude que Vladimir Poutine puisse avoir des intentions belliqueuses à l'égard de pays membres de l'Union européenne ou de l'OTAN ?
Qui peut avoir des certitudes, puisque par définition, il entretient le brouillard de la guerre. Personne n'avait la certitude, ou plutôt tout le monde pensait que la veille de l'invasion en Ukraine, qu'il n'interviendrait pas en Ukraine. Une très grande majorité des gens le pensaient. Donc, moi, je me méfie, comme disait Pierre Dac, c'est dur de prédire, de faire des pronostics, surtout quand il s'agit de l'avenir. Regardez ce qui est en train de se passer. Regardez la Transnistrie. Déjà, le processus habituel, on manipule des minorités russophones dans tous les pays qui étaient autrefois soit frontaliers, soit membres de l'URSS. Et ensuite, ces minorités appellent au secours. Ben, c'est la tactique d'Hitler dans les Sudètes et en Pologne. C'est la tactique c'était la tactique de l'URSS après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est la tactique aujourd'hui. Ça a commencé en Ukraine. Les Moldaves aujourd'hui, et d'ailleurs la présidente est venue en France il y a quelques jours, ils ont quand même une province qui s'est autodéclarée indépendante, qui est une province russophone, et qui est en train d'appeler les Russes. C'est toujours comme ça. Et quand ça se passe sous nos yeux, ça veut dire oui qu'il ne s'arrêtera pas là. Est-ce que ça commencera par les États baltes ou par la Moldavie ? Pour le moment, c'est la Moldavie qui est en première ligne. Oui, si on le laisse faire en Ukraine. Il attendra un petit peu et ça recommencera en Moldavie ou dans les États baltes.
Alors justement, on a comparé le Rassemblement national, le Parti communiste et la France insoumise aux Munichois, c'est-à-dire aux partisans, dans le fond, de la politique de l'apaisement qui était la doctrine des Anglais, suivie par le français Daladier. Vous parliez des poches germanophones des Sudètes. Aujourd'hui, les Russes utilisent les poches russophones, justement. Et on sait que comparaison n'est pas raison, mais on peut y voir une proximité avec l'histoire. En gros, est-ce que l'histoire repasse les plans ?
Oui, bien sûr. De ce point de vue-là, oui. Du point de vue de la tactique par rapport à la tactique d'Hitler par rapport aux Sudètes ou par rapport à d'autres minorités germanophones est exactement... C'est la tactique des dictateurs en général. C'est jamais eux qui déclenchent la guerre. Il faut toujours qu'ils trouvent une raison de dire on intervient en réaction. On intervient parce qu'on a été appelé à l'aide, etc. C'est tellement classique. Par conséquent, ça ne rapproche pas obligatoirement le régime d'Hitler du régime de Staline ou du régime de Poutine. Mais ça veut dire que ces régimes dictatoriaux ont un certain nombre de choses en commun, et notamment le fait d'avoir une fâcheuse tendance à envahir leurs voisins tout en disant qu'ils viennent protéger.
Vous dites que ça fait des décennies, je vous cite à nouveau, que nous avons en France la cinquième colonne, les collabos, les défaitistes, les pacifistes. Et pour vous, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont les caniches de Poutine. Ils s'entendent parfaitement bien, ajoutez-vous, avec les dictateurs. Vous considérez Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen comme des ennemis de l'intérieur ?
Sur ce sujet-là, oui, je pense que, d'abord, je pense que ces extrêmes sont des dictateurs en puissance. Je pense que la 6e République, j'espère bien qu'on n'arrivera pas à la 6e République de M. Mélenchon, parce qu'on regrettera la 5e. Quant à Marine Le Pen, elle représente un parti qui a été fondé par des collabos, par des membres de la Waffen-SS, etc., même si c'est déjà très longtemps et même si ça a changé, il en conserve quand même beaucoup de caractéristiques. Donc ce sont des idéologies qui sont des dictatures en puissance. Si par hasard, un jour ou l'autre, ils arrivaient au pouvoir, et par conséquent, pour moi, une dictature demain dans un pays comme le nôtre, ce serait effectivement des ennemis de l'intérieur. C'est d'ailleurs aujourd'hui déjà la cinquième colonne de la Russie. C'est clair pour tout le monde.
Alors, le RN s'est abstenu sur le plan de soutien à l'Ukraine à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut nécessairement y voir le signe d'une ambiguïté à l'égard de Vladimir Poutine ?
Non, je n'y vois pas d'ambiguïté. Il est clair, il peut y avoir différentes, paradoxalement différentes, non pas tendances, mais sensibilités au Rassemblement national. Celle de Marine Le Pen, elle est poutinienne jusqu'au bout des ongles. Elle n'a pas changé d'avis. Elle s'aperçoit simplement que ce qui est en train de se passer en Ukraine, ça heurte, ça choque profondément l'opinion française et qu'elle ne peut pas continuer un discours pro-poutinien. Elle a bien constaté, notamment à la présidentielle, que Zemmour s'est planté et a perdu la moitié de son électorat le jour où il a dit l'Ukraine, on s'en fout et il ne faut pas s'en occuper. Donc elle comprend qu'il faut faire un certain nombre, c'est de la tactique, elle comprend qu'il faut faire un certain nombre de concessions, elle fait des concessions à l'opinion publique, elle ne fait pas du tout de concessions idéologiques. Sur le fond, je suis persuadé qu'elle ne reviendra jamais sur ses déclarations disant que Poutine est le meilleur chef d'État en Europe qu'elle a faite il n'y a pas tellement longtemps. Alors, je vous rappelle qu'avant 2022, elle prenait une alliance avec la Russie.
Et ça ne dissuade pas, parce qu'on pourrait faire un parallèle dans le fond avec Donald Trump et ses embardés sur donnant le feu vert en quelque sorte à Poutine de faire feu si jamais les pays de l'OTAN ne payaient pas leurs cotisations. Est-ce qu'on peut se dire que là, les hésitants du trumpisme, est-ce que ça pourrait justement les refroidir? Et la même chose en France, est-ce que la posture de Marine Le Pen, qui était dans le fond aussi neutre que le gouvernement helvétique, peut inquiéter les électeurs ?
Je ne pense pas que les électeurs de Marine Le Pen accordent de l'importance au conflit en Ukraine, hélas. Je pense que les motivations pour voter pour le Rassemblement national aujourd'hui sont des motivations internes, sont souvent d'ailleurs des motivations pour une partie d'entre eux complotistes. On retrouve les électeurs du Rassemblement national chez les complotistes, chez les antivax, etc. Il y a tout un écosystème qui est largement entretenu par les réseaux sociaux et qui trouve ses racines vraiment profondément dans un nationalisme exacerbé, qui est d'ailleurs paradoxal avec la position sur l'Ukraine. Mais je pense que ce qui se passe, pourtant pas très loin de la France, mais à 2000 km, ça les intéresse assez peu. Et que, à la limite, l'opinion de Marine Le Pen sur l'Ukraine, qui est extrêmement critiquable, ne lui est pas si négative que cela dans son électorat. Dans le reste de l'électorat, je pense que tout le monde s'aperçoit que c'est une forme de... Je le disais, vous m'avez cité tout à l'heure, une sorte de compromission, une forme de complicité. Oui.
Est-ce que l'attitude du chancelier Scholz a pu vous déranger ?
Je crois qu'elle ne dérange pas que moi. Scholz en est au point où il est isolé en Allemagne même. Non seulement en Allemagne, par rapport à la CDU, dont le président l'a violemment attaqué, le président qui est peut-être le prochain chancelier allemand, donc c'est important, l'a violemment attaqué, mais sur trois parties de sa coalition, deux parties lui reprochent absolument de ne pas vouloir envoyer les missiles, les missiles Taurus, et par conséquent, ça ne dérange pas que moi, ça dérange même, y compris en Allemagne, y compris au sein de son pouvoir, je pense que c'est... Alors, il y a deux choses. D'abord, de la part de Scholz, une position incompréhensible, et deuxièmement, moi, ce que je pense, c'est que l'historique d'entrisme dans le SPD de la part des services de renseignement soviétiques à l'époque et russes aujourd'hui est quelque chose qui est toujours d'actualité et dont il faudrait d'ailleurs que Scholz se méfie en premier.
Il ne nous reste que quelques secondes, Claude Malhuret. Le Sénat va être appelé jeudi prochain à voter sur le CETA, le fameux traité de libre-échange avec le Canada, qui est en fait en vigueur déjà depuis des années sans avoir été voté. Enfin, il a été voté à l'Assemblée en 2019, parcours compliqué. Quelle issue souhaitez-vous pour ce vote en quelques secondes ?
Moi, je pense que le résultat du CETA est un résultat extrêmement positif. Il a multiplié tous les viticulteurs qui exportent au Canada, tous les producteurs de lait et de fromage, etc. Quant aux producteurs de bovins, on nous dit, mais on va être envoyé des bovins canadiens. Depuis le début du CETA, il y a 7 ans, on n'a pas vu un seul bœuf canadien. Ouais. Et par conséquent, il n'y a pas de raison que ça change.
Merci,
merci.
Claude Maluret.
Merci. Ouais, on est limité par le temps. Merci Claude Maluret. Merci à Sigrid Azéroual et à Flore Simon. Et merci à toute l'équipe technique. À bientôt Frédéric, la semaine prochaine.
Un terrain en pente, au-dessus de la ville, des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là-haut m'asseoir, quand la ville s'allume, je regarde le soir et je fume. Je vois le cours de danse à côté de la piscine et les dames qui pensent dans leur cuisine. Elles pensent aux actrices dans les halls monumentaux, les brassées d'iris et les beaux manteaux. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. Tout de là-haut. De mon belvédère, je regarde la France avec ses lumières, ses souffrances. Je vois au bord de l'heure une usine qu'on vend et des hommes qui pleurent devant. Plus loin, les Anglis et Rouen derrière. Et le fleuve qui glisse dans la mer. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. Au bord du canal, il y a des campeurs, des gens qui leur parlent et qu'ont peur. Un monsieur de dos à la découverte de l'Eldorado dans une poubelle verte. Fanion bannière, plaisir et souffrance entre les barrières. Passe le tour de France. La gloire a des chemins durs et abrupts. Pour monter le machin, faut prendre des trucs.